Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères, il nous est donné de contempler un épisode qui n'est pas le plus réjouissant pour l'âme d'apôtre que nous sommes. C'est la tempête. Ce qui est réjouissant, c'est la fin de l'histoire, c'est qu'elle finira par être apaisée. La tempête que nous contemplons ici, que les apôtres ont connue, que le Seigneur a permis et qu'il a rejoint, c'est l'image même de notre combat spirituel et de notre foi. Je vous propose de voir ces deux points essentiels pour la vie chrétienne et pour la vie spirituelle en général. Voyons d'abord la question du combat spirituel. Oui, il y a des tempêtes, ce n'en ont pas douté, et ici l'image de la barque qui est donnée comme une allégorie à travers ce qu'ont vécu les apôtres, eh bien, l'Église n'a pas manqué d'y voir sa propre image, c'est-à-dire cette barque au cours des temps qui va de la venue du Christ jusqu'à sa venue dans la gloire et qui sera ballottée par les vents, les tempêtes et les mers déchaînées. Il ne nous a jamais manqué dans l'histoire de contradictions, de contradicteurs et de tempêtes qui recouvraient la barque de Pierre. Et il ne nous en manquera pas, je vous rassure, il ne nous en manquera pas jusqu'à la fin des temps. Voilà déjà un point très clair. Les chrétiens ne sont pas des gens qui vivent la main sur les yeux ou se mettant la tête dans le sable. Nous savons qu'il y a des contradictions dans le monde et ces contradictions ne s'arrêtent, hélas, si j'ose dire, pas à l'Église. Elles viennent jusqu'à nous qui sommes les membres de cette Église, car cette barque, c'est aussi mon âme. C'est aussi mon arme voyageant dans ce monde de ma naissance jusqu'à sa mort. Il ne devrait jamais vous manquer des épreuves et des tempêtes. Alors, pourquoi donc cette difficile traversée, comme le disait Mère Teresa, ce n'est pas la traversée paisible qui nous a été assurée, c'est l'arrivée certaine, ce qui n'est pas la même chose. Voilà comment nous allons fortifier notre position dans ce monde, notre venue vers Dieu, notre coopération. Et oui, ce n'est pas uniquement en y rêvant, en y pensant. La vie spirituelle n'est pas une illusion. Et vous le savez, si vous vous colletez à cette vie spirituelle véritablement, faire le bien est quelque chose de difficile. Saint Paul déjà nous le dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas, je le réalise. Et oui, le combat spirituel n'est pas fantasmagorique, le combat spirituel est réel. Notre tempête perpétuelle en ce monde est une réalité sur laquelle nous devons survivre, sur les vagues desquelles nous devons survivre. Je ne suis pas très marin, c'est pourquoi je ne trouve pas les mots, mais c'est une image intérieure. Voilà donc ce qu'il nous faut faire, il nous faut survivre. Et pour survivre, eh bien d'abord il ne faut pas sombrer et ensuite il faut avancer. Il ne faut pas sombrer, c'est-à-dire ne pas céder au désespoir et ne pas se laisser aller. Les disciples sur cette barque ont certainement eu très peur, ils ont eu un geste salutaire, ils ont réclamé de l'aide. Cette aide, évidemment, dans votre foi, il vous faut la réclamer à Dieu dans la prière, il vous faut la réclamer aux prêtres qui ont charge de gouverner la barque de vos âmes, ça fait partie de notre charge de gouvernement. Il faut vous la demander encore à vos amis et familles, à la communauté chrétienne qui vous entoure, car si vous ne criez pas pour avoir de l'aide, eh bien vous risqueriez de sombrer tout seul. Il nous faut écoper, c'est-à-dire vider le mal, se confesser, faire le bien, bref, il nous faut continuer d'avancer dans la vie. Alors, mes bien chers frères, nous ne sommes pas démunis. Nous avons des armes. Pour se battre, il faut des armes. Et ces armes, c'est avant tout la prière. Si je prends une image que j'emprunte à Saint Ignace de Loyola, le bouclier, le glaive et le casque. Le bouclier qui vous procure l'espérance, c'est pour examiner sans cesse votre âme, votre état, où en êtes-vous? Cela vous donne à la fois de rendre grâce à Dieu et de fortifier votre espérance, et à la fois de demander pardon, afin de ne pas vous faire illusion à vous-même, afin donc d'espérer en Dieu. Il y a le glaive de la charité. À force de bien, vous finirez non pas par noyer la barque, mais par noyer le mal. Il nous faut noyer le mal dans un océan de bien. Voilà le combat essentiel. Il vous faut vous battre en ce monde et vous battre à coups de bien. Enfin, il nous faut, et ça sera mon deuxième point de l'homélie, le casque de la foi, c'est-à-dire nous recouvrir de cette armure que le Christ nous propose pour le chercher et le trouver. Voilà, c'était le premier point, le combat. Il n'en manquera jamais, vous en aurez toujours, et c'est la preuve que vous êtes vivant, c'est la preuve que vous vivez la véritable vie de ce monde qui, d'un point à un autre, ne nous laisse pas quiets. Alors, le Seigneur, devant l'adversité qui touche ses disciples et qui l'a permis, va leur donner une leçon. D'abord, il faut dire qu'il n'est pas immédiatement aimable, notre Seigneur, ici, alors que ils ont très peur pour leur vie, alors qu'ils sombrent, alors que le Seigneur dort, ce qui est déjà presque une attitude peu aimable devant qui sombre. Vous l'avez peut-être déjà pensé dans votre vie, le Seigneur dort-il ? Je prie, et voilà, il ne se passe rien. J'ai l'impression d'être tout seul. Si vous lisez Mère Teresa et ses lettres publiées après sa mort, vous vous apercevrez que 30 ans durant, excusez du peu, 30 ans durant, il lui a semblé ne pas entendre le Seigneur lui parler dans son cœur. Elle a pourtant maintenu le gouvernail de l'action bonne et de la confiance inébranlable sans aucune preuve. C'est d'ailleurs ça le sens de la foi, croire ce que l'on ne peut pas vérifier. Alors, s'il vous arrivait que le Seigneur dorme, que vous ayez l'impression que le Seigneur dorme, il faut faire comme les disciples, le réveiller. Réveiller en vous le Seigneur qui dort, en fait, c'est moi qui dors. C'est ma conscience qui s'est éteinte, qui s'est apesantie jusque à ne plus rien faire du tout. Voilà, quand c'est moi qui dors, c'est le Seigneur qu'il faut réveiller en moi. Le désir ardent du bien et la volonté d'aller vers lui. Ici, le Seigneur va être un peu mal aimable, l'ai-je dit, mais c'est pédagogique. Alors qu'on le réveille dans la détresse absolue, il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Minus, hein, Abins, minus fides, tout petit minable fidèle que vous êtes. Alors, en fait, c'est un acte d'espérance, car même avec un peu de foi, nous pouvons réveiller le Seigneur. Oui, il vous faut travailler à la foi, il vous faut désirer la foi, il faut faire des actes de foi. Si vous ne dites jamais à quelqu'un que vous l'aimez, eh bien, d'abord la personne va finir par en douter, et vous-même peut-être vous oublierez que vous l'aimez. Eh bien, pour le Seigneur, c'est pareil. La foi est une remise intérieure comme un acte d'amour. Il vous demande, il exige, pour être vivifié, que vous fassiez des actes de foi. Hier, je rencontrais un garçon, déjà assez, c'est pas un gamin, et il est à Polytechnique, et il a réfléchi à plein de choses, etc. Et puis il me dit, mais j'ai pas la foi. Alors c'est déjà bon signe, vous savez, quand quelqu'un vient voir un prêtre pour lui dire qu'il a pas la foi, c'est déjà, on est sur le bon chemin quand même. Hein. Et il me dit, j'ai pas la foi. Alors je lui dis, d'accord, tu n'as pas la foi, mais est-ce que tu pries? Non. Est-ce que tu fais des actes de foi? Non. Est-ce que tu pratiques la foi? Non. Alors, sois certain, aussi certain que les mathématiques que tu pratiques, que tu n'auras jamais la foi. Parce que tu fais tout pour ne pas avoir la foi. Il vous faut vous livrer à la foi. Il faut espérer. Il faut faire des actes. Il faut demander. Il faut pratiquer. Et contre toute espérance, le Seigneur vous donnera cette foi. Alors, bien sûr, il y a une qualité essentielle de la foi, il y en a même deux. Il y a l'humilité et l'abandon. L'humilité qui n'est pas le plus fréquent chez les intellectuels qui réfléchissent beaucoup et qui donc se croient être parfois suffisamment brillants intellectuellement pour tout comprendre. La foi qui nous est donnée, c'est de saisir quelque chose de Dieu, Dieu étant infini, tout-puissant, la cause de tout. Il est illusoire de penser que nous allons l'enfermer, le comprendre et pouvoir tout dire. Nous pouvons rendre compte de son existence. Nous pouvons savoir quelque chose de lui parce qu'il s'est révélé dans le Christ, mais n'espérez pas, en même temps, c'est plutôt plaisant, n'espérez pas terminer ici-bas votre connaissance de Dieu. C'est une connaissance qui vous sera donnée entièrement dans l'éternité et qui d'ailleurs ne finira jamais, car c'est un acte éternel de connaître Dieu et d'en vivre. C'est la condition de l'humilité que certains grands philosophes ont exclue en raison de leur attitude et qui ne leur a pas permis de connaître Dieu. Enfin, il vous faut vous abandonner. L'attitude spirituelle peut être la plus difficile, mais la plus essentielle. Vous abandonner en Dieu. Avoir foi, ce n'est pas simplement croire de loin que ça doit être vrai. Non, avoir la foi, c'est se remettre tout entier entre les mains de Dieu. C'est accepter qu'il soit votre but final et que vous le laissiez gouverner votre vie. Je prends une image qui vaut ce qu'elle vaut. Pour ceux qui ont pratiqué le parachutisme, il est très déraisonnable, a priori, de sauter d'un avion à 400, 500, 1000 ou 2000 mètres d'altitude. Pourtant, en sautant, vous avez la foi, vous avez la confiance, confides, fides c'est la confiance, la foi. Vous avez confiance que celui qui a plié votre parachute l'a fait correctement. Vous avez la foi que le matériel n'est pas trop hors d'usage et qu'il soutiendra votre foi, son fonctionnement et que les suspentes ne sauteront pas. Vous avez la foi, en pratiquant saut après saut, que normalement, en suivant les consignes qui vous ont été données, cela devrait bien se passer. Eh bien, la foi, mes bien chers frères, en Dieu, exige cet abandon, ce petit moment que d'aucuns disent irrationnel, que Kierkegaard qualifie de saut qualitatif, c'est pour ça que je pense au parachute, un saut au-delà de ce qui est possible, pas juste sauter une marche ou deux ou trois, mais vraiment sauter en Dieu, s'abandonner, lui faire suffisamment confiance pour penser qu'avec lui, nous arriverons à sauter jusqu'au ciel. Ainsi soit-il.